Où Youssouf raconte ce qu'il n'a pas vu, mais se garde bien de raconter ce qu'il a vu. Le soleil, en colorant le sommet de la montagne, réveilla Moulanour et ses hommes. Tous se mirent d'abord en prière, puis commencèrent à fourbir leurs armes, à étriller leurs chevaux et à préparer le déjeuner. « Ton compagnon de voyage a passé une mauvaise nuit, » dit en riant Moulanour à son hôte. « Comment, Youssouf ?» demanda celui-ci. « Youssouf en personne. Tu sais donc où il est ? Je m'en doute. » « Je t'ai payé deux fois hier de le faire chercher, tu ne m'as rien répondu, parce que je savais où le trouver. Et où est-il ? À 50 pas d'ici. Que comptes-tu faire de lui ? Absolument rien, te le rendre, c'est toi qui en feras ce que tu voudras. Eh, mes braves, continua Moulanour en s'adressant à ses hommes, portez quelque chose à manger à notre prisonnier et dites-lui que Moulanour ne veut pas le faire mourir à jeun. » Alors il raconta à Iskander comment Gouchad avait arrêté Youssouf, l'avait forcé de rendre ses armes et l'avait ramené prisonnier. Quand le déjeuner fut fini, Moulanour prit la main d'Iskander et l'appuya contre son cœur et contre sa tête. « Tu es chez toi ici, dit-il. Je te verrai toujours avec joie. Je t'aimerai toujours avec reconnaissance. Maintenant, je t'ai indiqué le chemin par où l'on monte au chaque dague et celui par où l'on en descend. À toi d'être utile à tes compatriotes. Moi, je vais du côté opposé et pour une autre affaire. Adieu. Souviens-toi de Moulanour. Si tu as besoin d'un ami, appelle-le et l'avalanche n'est pas plus vite au bas de la montagne qu'il ne sera près de toi. » Et, comme une volée de pigeons sauvages, s'envolèrent le chef et toute sa bande. Iskander descendit alors à la caverne. Youssouf était couché, les mains liées, les yeux bandés. Le jeune bec ne put résister au désir d'expérimenter par lui-même le courage de son compagnon. « Lève-toi et prépare-toi à mourir » dit-il d'un ton rude et en changeant sa voix. Youssouf tremblait de tous ses membres, mais grâce à un effort suprême, il parvint à se mettre sur ses genoux. Il était d'une pâleur mortelle. Son nez semblait avoir perdu cette base solide à l'aide de laquelle, dans l'état ordinaire, il formait angle aigu avec sa bouche, angle obtus avec son menton, et retombait inerte sur ses lèvres. Il leva les mains au ciel et implora son pardon d'une voix gémissante. « Ô Jazraël ! » s'écria-t-il. « Fais grâce à ma tête, elle n'est pas mûre pour la mort. Par où et par quoi t'ai-je offensé ?»« Ce n'est pas ma volonté, c'est celle de Moulanour. Il a dit « Youssouf s'est bâti comme un tigre. Maintenant que Youssouf connaît ma retraite, il n'y a plus de sûreté pour moi dans la montagne. » D'ailleurs, le sang de mes camarades versé par lui à l'assaut de Derbonne crie vengeance et doit l'obtenir. « Moi, s'écria Youssouf, moi, je me suis battu à l'assaut de Derbonne. Quel est l'abominable calomniateur qui a dit cela ? Honte à la tombe de ses pères et de ses grands-pères jusqu'à la 10e génération. Non, non, je ne suis pas homme à me battre contre mes compatriotes, moi. Quand la trompette ou le tambour nous appelait à la muraille, moi, je descendais immédiatement au bazar. Et quand c'était mon tour de marcher, je me réfugiais dans la mosquée et j'y dormais honnêtement et consciencieusement à la gloire du prophète. C'est vrai, un jour j'ai tiré 3 coups de fusil, mais il était bien prouvé que l'ennemi était à 5 verstes. Quant à mon sabre, essaye de le tirer toi-même, et si tu peux en faire sortir la lame du fourreau, je consens à ce que tu m'en abattes la tête. Déjà, du temps de mon père, elle n'en sortait plus. Pourquoi donc me serais-je battu contre Casimoula, contre un brave homme, contre un saint homme, contre un prophète? S'il n'avait pas coupé la tête à ceux qui buvaient et à ceux qui fumaient, je serais certainement aujourd'hui un de ses plus dévoués murides. Soit, mais il y a une affaire de religion dans la vengeance de Moulanour contre toi. Il sait que tu es partisan d'Ali, et il a juré de faire tuer tous ceux qui croient à Ali. Partisan d'Ali, moi? Mais je lui arracherai la marme à cet Ali et à ces 12 califes. Mais si j'avais vécu en Égypte du temps des Fatimides, je n'aurais pas été content que je ne les eusse détrônés. Je suis sunnite, entends-tu bien? Sunnite, de cœur et d'âme. Qu'est-ce qu'Ali? Une poussière? Je souffle et elle s'envole, un grain de sable, je marche dessus et je l'écrase. Mais par-dessus tout cela, vois-tu, ce que ne te pardonnera jamais Moulanour, c'est ton amitié pour Iskander, son ennemi mortel. Mon amitié, s'écria Youssouf, n'est-ce donc pas une preuve d'amitié que tu lui donnais en l'accompagnant au chaque dague? Par amitié sans doute, mais pour mon plaisir surtout. Eh bien, la chose lui a encore plus mal réussi qu'à toi et sa tête est tombée avant la tienne. Sa tête est tombée, répéta Youssouf. Eh bien, ce n'est pas une grande perte qu'il a faite là. Elle ne valait pas grand-chose, sa tête. Mais au lieu de m'en vouloir, Moulanour devrait me remercier. Moi qui lui ai conduit Iskander, qui le lui ai livré pieds et poings liés. Iskander, mon ami? En voilà encore un fameux ami. Mais de son vivant, je l'aurais donné pour un pain d'épices. Iskander, mon ami, un des plus grands débauchés de Derbonne qui mange du jambon avec les officiers russes. Lui, mon ami, je brûlerai la barbe à sa mère. Malheureux que tu es, laisse en paix les morts. Si la peur ne te faisait pas perdre la tête, tu réfléchirais que sa mère ne pouvait pas avoir de barbe. Pas de barbe? Je te dis, moi, qu'elle se rasait. Par Allah, combien de rasoirs ne m'a-t-elle pas ébréché? L'ami d'Iskander, moi! Mais comment aurais-je eu la sottise de faire mon ami d'un homme dont le père était un brigand, la mère une folle et l'oncle un bottier? Je suis fatigué de t'entendre te parjurer, renégat, mentir, langue de chien. Baisse la tête, le sable est levé. Iskander fit siffler sa chasca autour de la tête d'Youssouf. Mais au lieu de le toucher avec le tranchant de la pointe, il lui enleva, avec son adresse ordinaire, le mouchoir qu'il avait devant les yeux. Youssouf regarda avec terreur son prétendu bourreau et reconnut Iskander. Il poussa un cri et resta stupéfait. « Eh bien, qu'as-tu à me regarder, sanglier bourré de bêtises ? Voyons, répète-moi donc que mon père était un brigand, que ma mère était folle et que mon oncle faisait des bottes. » Youssouf, au lieu de s'excuser et de paraître confus, éclata de rire en se jetant au cou d'Iskander. « Ah, je suis donc arrivé à te mettre en colère, ce n'est pas maladroit de ma part. Cela a été long, mais c'est venu à la fin. Ah, tu t'en es filé pour prendre un rossignol et tu attrapes un corbeau. Mais crois-tu que dès les premiers mots, je n'ai pas reconnu ta voix ? Ta voix, la voix de mon meilleur ami. Mais je la reconnaîtrai au milieu des cris des chacals, des miaulements des chats et des aboiements des chiens. Très bien, tu m'as reconnu. Tu en doutes ? Non, tu t'es moqué de moi. Pour rire, pour plaisanter, par bon autre chose, tu comprends bien. Mais comment t'es-tu rendu à la femme de Moulanour ? Comment t'es-tu laissé désarmer par elle ? Est-ce que tu ne te rappelles pas avoir vu chez le commandant de Derbonne une gravure qui représentait une fort belle femme, ma foi, déplaçant la cuirasse du bec que l'on appelait Mars ? Au-dessous, il y avait en russe « Mars désarmé par Vénus ». Voilà comment je me suis laissé désarmer, mon cher ami. Mais à une si belle créature, je lui eusse tout donné, Iskander, depuis ma burqa jusqu'à mon cœur. J'aurais bien voulu voir, coquin, ce que tu eusses fait en te rencontrant tête à tête avec elle. Quel nez, quels yeux, et une bouche pas plus grande que le trou d'une perle. Et sa taille, donc. Tu as dû remarquer sa taille, un amateur comme toi. J'avais envie de lui voler sa ceinture pour me faire une bague. Alors c'est par amour que tu t'es laissé garrotter par elle et que tu l'as suivie au bout d'une corde. Je l'ai suivie au bout d'un cheveu. Soit, mais il y a une chose encore dont je suis sûre, c'est que tu ne raconteras pas à Derbent, et surtout devant moi, des amours avec Gulshad. Gulshad, elle s'appelle Gulshad, quel nom charmant. Mais tu me fais bavarder, toi, ce qui est cause que je ne te demande pas comment tu te trouves ici. Iskander lui raconta en deux mots ce qui s'était passé entre lui et Moulanour. Quand il en fut à la chute du brigand dans le précipice, Youssouf l'interrompit. « Mais il est mort dans ce cas, dit-il. Non ? Comment non ? » Iskander lui dit comment il avait sauvé Moulanour et l'avait ramené à ses hommes. « Alors il est là, ce cher Moulanour ?» demanda Youssouf. « Non, il est parti. Pour où ? Pour une expédition. Tu en es bien sûr. J'ai vu disparaître la poussière de son dernier cavalier. Et il est tombé de 500 pieds, dis-tu ? Et le diable ne lui a pas cassé le cou ? Et il ne s'est pas brisé les bras et les jambes en mille morceaux ? Je cracherai un jour dans le canon de ce brigand-là. Ah, s'il était venu pour m'arrêter lui-même au lieu de m'envoyer sa femme, je lui eusse appris avec quelles lettres on écrit le mot brave. Mais il n'a pas osé, le lâche. Allons donc, te tairas-tu, fanfaron ? Mais si tu avais rencontré Moulanour en personne, tu en aurais fini avec tous tes mensonges et toutes tes vanteries, car tu serais mort de peur. De peur, moi ? Apprends, mon cher Iskander, qu'il n'y a qu'un homme au monde qui puisse me faire peur. C'est celui que je vois dans une glace quand je m'y regarde. Cette fois, Iskander n'y tint pas. Pour un tatar, la gasconnade était si forte qu'il éclata de rire. « Allons, dit-il, assez sur ce chapitre. Tu viens encore de m'apprendre du nouveau sur ton compte, et cependant je croyais te bien connaître. À cheval et en route, brave Youssouf. Tu sais le chemin ? Oui, Moulanour me l'a indiqué. Eh bien, marche devant, je te suivrai, et malheur à celui qui viendrait nous attaquer par derrière. » Iskander prit le sentier que lui avait indiqué le bandit. En les voyant d'en bas, on n'eût certes pas cru que des créatures humaines se risquassent par un tel chemin. Lorsqu'on fut arrivé à la région des neiges, Iskander donna son cheval à tenir à Youssouf et lui-même, son aiguillère à la main, se mit à escalader le plus haut sommet. Pour la première fois, cette neige virginale avait reçu l'empreinte du pied d'un homme. Iskander se prosterna sur ce pic où, avant lui, les anges avaient seuls prié. Lorsqu'il releva la tête et regarda autour de lui, il vit la terre merveilleusement belle. Devant lui se déroulait toute la chaîne de montagnes qui s'étend de la mer Caspienne à l'Avarie. Son œil plongeait jusqu'au fond des vallées, et dans leur profondeur, il voyait les rivières minces et brillantes comme un fil de soie. Tout était muet et tranquille. Iskander était trop loin pour distinguer ni hommes ni animaux, trop haut pour entendre aucun bruit. Il fut resté plus longtemps à admirer le splendide spectacle si l'air, complètement dégagé à cette hauteur de toute vapeur terrestre, n'eût été trop pur pour une poitrine humaine. Toutes les artères du jeune bec commencèrent à battre comme si son sang n'étant plus suffisamment comprimé par l'atmosphère était prêt de s'échapper à travers ses pores. Il pensa alors qu'il était temps de s'acquitter de sa commission et, dans sa croyance profonde que tout était possible à ce dieu dont rien ne semblait plus le séparer, il forma une boule de neige, la mit dans son aiguillère et commença à redescendre en tenant le vase élevé au-dessus de sa tête pour que, selon la prescription, il ne fût point souillé au contact de la terre. La descente était bien autrement difficile que la montée, mais une puissance supérieure avait pendant tout ce voyage paru veiller sur Iskander. Au bout d'une heure d'absence à peu près, il se retrouva près de Youssouf. Youssouf l'interrogeait, mais Iskander secoua la tête. Youssouf essaya de plaisanter, mais Iskander leva gravement le doigt vers le ciel. Il redescendait sur la terre, plein de la sublimité des hautes cimes. « Ah ça, lui dit Youssouf, il paraît que tu as mangé du soleil là-haut, et tu crains d'en laisser échapper un morceau en parlant. » Mais Youssouf eut beau dire, il ne parvint pas à tirer une seule parole d'Iskander. Il finit donc par se taire à son tour. Les voyageurs, malgré toute la hâte qu'ils firent, n'arrivèrent à Derbonne que bien avant dans la nuit, et quand les portes étaient déjà fermées depuis longtemps. Le cœur d'Iskander battait à lui rompre la poitrine. La crainte, le doute, l'espoir s'en disputaient chaque pulsation. Il accrocha les guerres à une branche d'arbre, regarda tristement, tantôt la muraille noire qui le séparait de ce qu'il avait de plus cher au monde, tantôt le ciel qui lui semblait s'obscurcir. Il avait l'air de demander à toute la nature « Dois-je craindre? Dois-je espérer ?» Bientôt, il vit avec joie que des nuages s'amassaient au ciel et glissaient sur la surface brillante de la lune. Il poussa, tout joyeux, le bras de Youssouf qui s'endormait et lui dit « Regarde donc, Youssouf, regarde donc ces nuages qui courent au ciel plus pressés qu'un troupeau de moutons. » « Un troupeau de moutons ?» balbutia Youssouf. « Achète le plus tendre et prends la baguette de mon fusil pour en faire du chesslik. Je meurs littéralement de faim. »« Allons, dit Iskander. Voilà mon animal qui, comme toujours, ne pense qu'à son estomac. Les moutons dont je te parle sont des nuages, Youssouf. Il va pleuvoir, mon ami. »« Ah, murmura Youssouf. Si ça pouvait être les alouettes comme je me mettrais sous la gouttière et la bouche toute grande ouverte encore. »« Eh bien, dors donc, brute, puisqu'il y a un proverbe qui dit qu'il ordine. »« Bonne nuit, Iskander, dit Youssouf en bâillant. » Et il s'endormit sur sa burqa. Quant à Iskander, il ne ferma pas l'œil de la nuit et ne cessa de regarder le ciel qui se couvrait de plus en plus. Au point du jour, les portes de Derbonne s'ouvrirent, et au bout de quelques minutes, on sut par toute la ville qu'Iskander était arrivé avec de la neige de chaque dague. Tous les habitants se réunirent. Le cœur de la mosquée, la cour, tout était plein de curieux qui voulaient voir porter à la mer l'eau de chaque dague. Après une courte prière, les mollahs, accompagnés du peuple, prirent le chemin du port. Iskander portait timidement les guières contenant la neige fondue. Mais Youssouf, au milieu d'un groupe immense, racontait à grand bruit les événements de leur voyage. Seulement, dans ce récit de Youssouf, Iskander disparaissait complètement. Quant à lui, Youssouf, il s'était si fort approché du ciel qu'il avait entendu ronfler les sept dormants et parler les houris. Il avait horriblement souffert du froid, mais heureusement, il s'était réchauffé en combattant deux ours et un serpent d'une effroyable grandeur. Il avait voulu rapporter la peau de ce serpent et l'avait dépouillé à cet effet. Mais son cheval s'en était tellement effrayé qu'il avait été obligé de la laisser en route. Toutefois, il savait parfaitement l'endroit où elle était restée, et le lendemain, il enverrait le muezzin pour la prendre. Mais si intéressant que fussent les récits de Youssouf, il n'eut plus un seul auditeur au moment où Iskander s'apprêta à jeter à la mer l'eau de son aiguière. Depuis le matin, il faisait grand vent, mais le vent n'était pas de la pluie, et il n'était pas tombé une goutte d'eau. Lorsque, après une longue prière du moulah, Iskander fut prêt à vider son aiguière dans la Caspienne, il se retourna vers Festali qui marchait au premier rang. « Rappelle-toi ta promesse, lui dit-il. Rappelle-toi nos conditions, répondit à son tour Festali. Ton sort n'est pas dans la neige, il est dans la pluie. Tu m'es bien cher si tu es cher à Allah. » Iskander leva les guières au-dessus de sa tête et aux yeux de tous, il versa dans la mer l'eau de la neige du Chekdag. Aussitôt, et comme par miracle, une grande tempête s'éleva. Des nuages qui semblaient chargés de pluie couvrirent le ciel. On entendit le tonnerre gronder au loin. Les feuilles, agitées violemment par le vent, secouèrent la poussière qui les couvrait. Les jeunes filles tatars regardaient gaiement à travers leurs voiles que le vent arrachait de leur tête. Toutes les mains étaient tendues pour sentir les premières gouttes de cette pluie, si impatiemment attendue. Enfin, un éclair déchira la voûte de vapeur amassée au-dessus de Derbent, et il sembla que, pour un déluge nouveau, toutes les cataractes du ciel s'ouvraient en même temps. Une pluie torrentielle se précipita des nuages et inonda la terre du Daghestan. Cette fois, personne ne songea à fuir. Personne ne pensa même à ouvrir son parapluie. Ce n'était pas de la joie, c'était du délire. Les papagues volaient en l'air et retombaient dans l'eau. Les prières, les cris de joie montaient tout ensemble au ciel. On s'embrassait, on se félicitait, on se montrait l'eau qui descendait comme une cascade gigantesque, ou plutôt comme 100 cascades, de la ville tatare à la ville russe, et qui se précipitait de la citadelle à la mer. Iskander était plus joyeux à lui seul que les habitants de Derbonne tous ensemble. Une femme lui tombait du ciel avec la pluie.